parce que Jérôme Gamme, c'est un poète performeur. Il fait des performances. Alors, comment ça se passe une performance de Jérôme Gamme? Eh bien, il est devant vous comme ça. Il a son texte, alors on voit quasiment pas son visage, il est caché derrière son texte presque, et il lit ses textes, et la manière dont il lit ses textes, waouh ! Alors ça c'est saisissant, c'est complètement hallucinant, parce que quand on écoute comme ça ces enregistrements CD, on se dit, il y a un montage, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible de lire comme ça, c'est trop essoufflé, il y a un trop gros travail sur le souffle, il y a un montage, des petits cuts, eh bien non, il lit en direct, de la même manière que c'est enregistré sur CD. Et puis donc son dernier livre, c'est Satire, suivi de... Alors Satire, C-A-T-I-R-E, hein, en deux mots, suivi de Ceci n'est pas une liste, ça vient de paraître aux éditions Aldante, et ça va vraiment, vous allez le trouver très prochainement dans votre librairie. Avec ce livre, il y a également un CD, et on va justement s'écouter un extrait de ce CD issu du livre Satire, et juste après, eh bien, interview avec Jérôme Gamme.
Mais qu'est-ce que c'est que ces salades là? Comment j'ai appris à ne pas à écrire? Comment j'ai... Le terme langue agglutinante a été écrit par en 1836 par l'allemand le linguiste engagé Wilhelm von Humboldt. Il est lui-même est formé à partir du verbe engagé agglutinare, qui signifie coller ensemble, urcoller. Et langue agglutinante se distingue et langue isolante, et langue synthétique, et langue actionnelle, et les polysynthétiques. En sachant que le soulèvement automatique de la fesse lors de son élévation du membre inférieur est un signe objectif de haute valeur. Quand son absence s'interroge sur le fil, faut contrôler la réalité du signe en faisant asseoir le malade jambe ouverte, étendu sur le flapping test. 1. 1. Mon travail, c'est de surveiller le bon, qu'il n'y ait pas de... que le client soit content, qu'on lui offre à boire. En fait, les chefs de table surveillent les croupiers, les chefs de partie, les chefs de table, les... Bref, tout le monde surveille tout le monde, et après ça... La vidéo surveille tout ça. Mon travail consiste à dépanner les machines, à les remplir quand elles sont vides, quand les gens... Il faut porter des seaux, des chariots, avec des milliers de jetons, les installer dans des machines ou des chariots, les peser, les remettre dans les chariots. Tous les anciens de la pesée sont... En pic, vous avez la musique dans les salles, la musique des machines, le bruit des jetons qui tombent, les machines, les compteuses en caisse, plus les gens. Certains, quand ils perdent, deviennent très agressifs, tapent sur les... Mais les machines sont faciles à exploiter, restent rentables durant des années. Devenue une sorte de baudruche sémantique, onflée à l'extrême, allotée à tout vent, raide à tous les compromis textuels, à tous les mauvais coups. De même que souffre de la même anémie sémantique, un vocabulaire exsangue, une organisation approximative et phrasée ne me donne pas la moindre chance de mouche pisseuse, parce qu'elle passe le plus clair de son temps à sucer la sève des feuilles et des branches. Avalant jusqu'à 1000 fois 1000 son propre poids par jour, et toute cette sève, une fois filtrée, rejetée par ce qui provoque une véritable pluie sur les arbres infestés ou... 1. Décomposition sémantique. 2. Décompensation syntaxique. En vers, phrase, en son, ration, sous la pression qui se répartit, se déplace, s'amincit. Ceux qui ont présenté des demandes de fouilles ont introduit au nom de leur institution. Hein. Pour moi, c'est l'abstrait que je veux slicer, générique, transcendantal en un cas douteux. Hein. Tous les examens sont inutiles. Une tension, un pli, une racine ont pris le nerf sciatique. C'est l'infla, c'est le sion, le don d'une dilate, ilapide. Dilatapide, c'est phasms in skinims, le the. Courte et me dit de
continuer. C'était donc un extrait du CD fourni avec le livre Satire du poète contemporain Jérôme Gamme que nous avons la joie d'avoir au téléphone et en direct. Merci beaucoup Jérôme Gamme d'être avec nous au téléphone et en direct.
Merci à vous de m'avoir.
Alors, une première question, on a entendu un extrait donc d'une lecture que vous faites. J'ai envie de poser cette question dans Satire, puisqu'on va parler d'abord de Satire, de ce dernier livre.
Oui.
De quoi ça parle? Est-ce qu'il y a un sujet dans Satire?
Ah, c'est une question vaste.
C'est une question vaste. Commençons par une question très générale.
Oui. D'une certaine façon, oui, il y a un sujet... qui est la difficulté de parler dans le monde d'aujourd'hui et pourtant la capacité à parler dans ce monde. D'un côté, il est dur de faire des phrases, dans le sens où les phrases, la façon de les faire sont préemptées par toutes sortes de discours, notamment médiatiques, économiques, administratifs, politiques, qui s'imposent ou qui créent une espèce de fond sonore qui sature l'oreille de celui qui parle, du locuteur, et donc qui le pousse à s'inscrire dedans malgré ou contre son gré. Donc c'est cette difficulté à parler, c'est un peu comme une langue qui aurait des démangeaisons, de l'urticaire, qui a de l'asthme, qui ça la gratte. Et donc elle essaie de sortir d'elle-même, et en même temps il y a la capacité à parler, paradoxalement. Ça me fait penser un peu à ces gens qui disent que les machines ne marchent qu'en se détraquant, qu'on ne marche qu'en boitant. Dans ce sens-là, c'est une langue qui marche, qui arrive à raconter des choses, qui arrive à communiquer, mais d'une façon très bizarre. Donc il y a les deux à la fois, ça raconte, et en même temps, ça exprime le fait que c'est dur de parler aujourd'hui.
Et alors c'est dur de parler, pourtant cette langue se dit, vous dites cette langue dans des performances, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de dire cette langue en langage parlé? C'est une langue en langage parlé, c'est une langue qui est faite pour être dite, que vous lisez. Pourquoi cette nécessité-là?
Oui. Peut-être avant de répondre à votre question directement, enfin c'est une façon d'y répondre, dire que les lectures, les performances, les lectures sonores ou le CD qu'il y a dans le livre ne sont pas une oralisation du texte. Il ne s'agit pas d'avoir un texte écrit et ensuite de l'oraliser. Ça ne s'est pas passé comme ça pour moi. Je ne savais pas que j'étais en train d'écrire de la poésie sonore. J'écrivais d'une certaine façon, j'étais amené à enlever des lettres, à répéter des mots, et je me suis aperçu que cette écriture-là avait un devenir sonore. C'est l'écriture qui est sonore. L'écriture, le projet littéraire, le projet syntaxique, le projet grammatical, le projet lexicographique, pousse à un devenir sonore de la phrase. Mais il ne s'agissait pas d'écrire un texte et ensuite de se mettre à le lire. Pourquoi est-ce qu'il est sonore? Je crois que parce qu'il est... Il porte en lui une interrogation très forte, pour le dire très vite, du signifiant, de la façon d'écrire. Et à un moment, je crois qu'elle se confronte, cette façon-là, à des situations de locution, c'est-à-dire à des situations sonores. Une lecture publique, pour moi, c'est un moment d'adresse. Alors, le public ne répond pas, mais ça reste un moment d'adresse. Et donc, un moment où s'éprouve ce que le projet littéraire prétend faire au langage. Puisqu'en fait, de la littérature, c'est en plus de raconter des histoires, ce qui est très important selon moi, c'est aussi une position par rapport à la langue, par rapport au fait de parler et de s'adresser.
Alors donc, ces textes-là, ils vont parler de la langue, ils parlent souvent de la langue. Il y a même dans Ceci n'est pas une liste, c'est tenter de caractériser la poésie contemporaine. La poésie contemporaine, aujourd'hui, c'est... Oui. Et il y a cette envie de parler de la langue et de l'objet en tant que poésie contemporaine.
Oui, mais en même temps, j'espère que c'est pas trop... Comment dire? Je ne veux pas que ça fasse professionnel la profession, si vous voyez ce que je veux dire, ou que ça fasse trop réflexif, parce que c'est pas... Je crois d'ailleurs que dans le livre, notamment dans Satire, il y a plein de choses qui y rentrent de l'extérieur, de choses politiques, économiques, sociales, et des cut-ups, on en reparlera tout à l'heure peut-être.
Mais voilà, tout à fait.
C'est pas que méta-poétique, comme qui dirait. C'est-à-dire, c'est pas une poésie qui s'interroge pendant des heures sur qu'est-ce que c'est que l'acte poétique. Mais sur ce court texte qui s'appelle « Ceci n'est pas une liste », il y a quelques temps, on m'avait demandé, dans une revue, de m'interroger sur la poésie contemporaine. Et là, pour le coup, c'était très performatif, parce qu'au moment où je m'interrogeais, je m'étais aperçu que c'était très dur de s'interroger sur la poésie contemporaine. Parce qu'on la met à distance, on la met dans une boîte, Enfin, je veux dire, c'est très bien, s'il y a des universitaires qui font ça, c'est très bien, il ne s'agit pas de juger, mais pour moi, c'était un peu difficile. Comme si c'était une espèce, vous savez, ces boîtes qu'on ouvre et il y a un ressort, une espèce de clown qui nous saute à la gueule, et ben, j'avais l'impression que j'étais en train de mettre le clown dans la boîte et de fermer la boîte. J'arrivais pas, ça résistait, ça refusait d'une certaine façon. Et donc, c'était une façon de répondre à la commande, entre guillemets, qui m'était faite, de manière performative, c'était de dire... La poésie contemporaine n'existe pas. Elle existe tellement bien, on ne peut pas dire qu'elle existe comme définitivement.
Alors, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, ça ne parle pas que de poésie, on n'a pas affaire à un professionnel de la profession, parce que dans Satire, on a affaire à un savoir hétéroclite. On reçoit, le lecteur reçoit des informations comme ça, hétéroclite, qui ne pose pas seulement que la question de la langue. Alors, c'est quoi ce savoir hétéroclite comme ça qui arrive dans le texte, qui s'y invite lui-même, j'ai l'impression?
Oui. Il y a plusieurs de ces textes qui ont été écrits par cut-up, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais par prélèvement. C'est-à-dire que j'ai lu toutes sortes de documents de la presse sur le web, des documents administratifs quand je faisais la queue à la mairie, toutes sortes de trucs. Et après, je ponctionnais dans ces textes-là, sans me poser de questions de sens, les phrasés ou les passages, les énoncés, qui me plaisaient par leur forme ou par leur style, par leur rythme, par la musicalité, ou qui me faisaient rire, ou qui m'angoissaient par leur sens, par leurs effets de signifier. Et ensuite, j'agençais des textes. Alors, je ne sais pas très bien comment. Il y avait des thèmes. Les thèmes ont souvent à voir, à part l'acte poétique que vous avez évoqué, ont à voir avec le corps, ont à voir avec le pouvoir, d'une certaine façon, ont à voir avec le désir, et ont à voir avec... c'est essentiellement ces trois trucs-là, le corps, le pouvoir et le désir. Et donc ensuite, une fois que j'avais ces prélèvements, je les agence pour montrer en gros que dans ce livre, la langue a des problèmes, sans en faire tout un truc trop triste, trop. Elle a des problèmes dans le sens où elle sursaute un peu devant elle-même, elle n'arrive pas à faire d'elle-même un simple moyen, un simple instrument, un outil. Elle a des problèmes à gérer un peu son flux. C'est comme une espèce de fleuve en crue. Et donc, j'essaie de faire passer ça. Et souvent, je m'aperçois, en lisant le livre, qu'il y a des effets comiques, voire même burlesques, de temps en temps. Et puis, il y a des effets un peu plus angoissants, un peu plus speed. En gros, c'est une espèce de... montrer les syndromes de la langue. C'est-à-dire un peu... Il y a un titre d'un film américain que j'aime beaucoup qui s'appelle « Une femme sous influence ». C'est un peu une langue sous influence, une écriture sous influence.
Alors, est-ce que c'est pour montrer justement les syndromes de la langue que c'est le texte a l'air d'être parfois haché? On a l'impression qu'il manque des bouts de mots ou qu'il manque des petits bouts de phrases qui s'entend bien à la lecture. Et je pense que ce qu'on a entendu là juste avant l'interview, on entendait bien que soudain c'est haché et exprès. C'est pour faire écouter le syndrome de la langue?
C'est pour faire écouter le syndrome de la langue et le syndrome du locuteur, les deux choses. C'est le locuteur, c'est comme s'il avait une patate chaude sous la langue, il parle trop vite, la langue ne va pas assez vite pour lui, ou réciproquement la langue va trop vite, ou elle est trop saturée de posture ou de, comment on appelle ça, en gymnastique on appelle ça des figures imposées, ou dans un concours de cheval par exemple, il y a un concours de cheval, il y a des bourrins qui doivent faire toutes sortes de figures au-dessus de barrières, il y a des figures imposées, et le locuteur n'arrive pas à se faire à ces figures imposées. Donc il y a ces deux axes, d'un côté le locuteur n'arrive pas à se faire aux figures imposées de la langue, d'un autre côté la langue va plus vite d'une certaine façon que le locuteur. En d'autres termes, c'est un problème de régime moteur. Un problème de régime moteur par la syntaxe, par le vocabulaire, etc. C'est, ce qui est dit, c'est que c'est un peu difficile de dire. Alors ça a l'air d'être une tautologie un peu sinistre, mais j'espère qu'elle ne l'est pas. Une fois de plus, je crois qu'il y a des effets... Enfin, quand je relis le livre, j'ai l'impression qu'il y a des effets comiques, qu'il y a des effets pas simplement purement comme ça, prise de tête, mais je crois qu'il y a un côté où la langue a du mal à rester dans ses gonds. Et donc qu'elle exprime une espèce de syndrome, une fois de plus, mais qui n'est pas forcément tragique.
Alors, est-ce
c'est un peu comme une farce à attrape. C'est un peu comme un truc qui cet exemple de la boîte farce à attrape, on ouvre le truc et un truc qui nous saute à la gueule. La langue ne rentre pas dans son lit, comme on dit le lit d'un fleuve.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que, pour revenir à ma première question, de quoi parle Satire?
Oui.
Quel est le sujet? C'est la langue. C'est le problème de la langue.
Oui, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Oui.
Le problème.
En même temps, le dire comme ça, comme qui dirait dans l'histoire des avant-gardes littéraires françaises, la poésie, c'est quand même vachement surdéterminé. C'est un peu saturé, toute cette histoire. Et donc, dans ce sens-là, je pense pas que le livre s'inscrive. Enfin, j'espère qu'il traite ce sujet-là de manière un peu originale. C'est-à-dire que ça a pu être une énorme tarte à la crème, les problèmes de langue depuis les 60s, depuis... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... Donc, j'espère aussi que, par les modes d'écriture du livre, c'est-à-dire les cut-up. En fait, c'est quoi le cut-up ? C'est écrire avec les mots des autres. Donc il y a un thème qui est très important pour moi, qui est l'extériorité. Il ne s'agit pas de raconter son moi et ses problèmes. Et je ne vais pas venir et dire aux gens j'ai des problèmes pour écrire, parce que franchement, ou j'ai des problèmes pour parler, parce que ce n'est pas forcément. Donc ce qui m'intéresse, c'est quand vous dites le sujet, c'est la langue, oui, mais pas la mienne, la langue tout court, la langue qui ne m'appartient pas.
C'est une langue, la langue générale, la langue qu'on utilise tous les jours pour s'exprimer.
Exactement.
Et alors, pourquoi il y a cette nécessité pour vous de la couper, cette langue, c'est-à-dire de la hacher? Ça lui fait presque donner un autre rythme. Pourquoi cet effet de souffle, quand on vous entend lire, quand on l'entend lire, cette langue, il y a un effet de souffle terrible. Vous avez dit tout à l'heure, c'est une langue qui se gratte, qui a de l'asthme. Pourquoi la couper des fois? Lui retirer des mots, ou surtout lui retirer des lettres?
Je vous répondrai qu'en fait, je ne peux pas faire autrement. Dans ce livre-là, j'ai pas pu faire autrement. C'est le 7e livre que j'ai écrit. J'ai pas toujours écrit comme ça, mais là, ça s'est posé comme ça. C'était nécessaire. La justesse de ce livre-là supposait de faire ça, c'est-à-dire de couper des lettres, de niquer complètement la syntaxe, de passer un peu dans tous les sens. Ça s'imposait. Ce que j'avais à dire était localisé dans cette syntaxe-là. Ce que j'avais à dire était là. C'est-à-dire de dire... On dit souvent que si quelqu'un n'a rien à dire, c'est très simple. Voilà. Moi, je pense qu'il est très important de dire « j'ai rien à dire » ou « j'arrive pas à dire ». Il ne s'agit pas de dire « je ne dis rien ». Il s'agit de dire « je ne sais pas comment dire ». Ce livre a vraiment envie de dire ça. Ce livre a envie de dire « je ne sais pas comment dire ». Et en disant que je ne sais pas comment dire, je dis des tas de trucs sur moi, sur le monde, sur la langue, sur la culture, sur ce qu'on veut. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de syndrome. Ce livre, cette langue... enlève des mots, casse, enlève des lettres, supprime des lettres, parce qu'elle est... C'est comme quelqu'un qui se casse la gueule dans l'escalier. C'est un langage qui se casse la gueule dans l'escalier, qui va trop vite, qui n'arrive pas à résister, à freiner, à ralentir. Et le syndrome en question, c'est ça. Et je pense pas que c'est simplement le syndrome du locuteur, je pense qu'il y a, enfin, j'espère que le livre arrive à mettre ça en place, qu'il y a des effets objectifs dans le langage, c'est-à-dire le langage qui ne m'appartient pas, le langage dans lequel je suis, qui pousse à ça. Dans le système politique, dans toutes ces mondes que certains des textes de ce livre montrent.
Et alors, cette langue qui est dans Satire, c'est vrai qu'elle est différente du coup de la langue qui est utilisée dans Flipbook, ce livre aux éditions de l'Attente, qui a donc avec également un CD qui est le fruit d'une résidence que vous avez eue au Triangle à Rennes. Dans Flipbook, là, on trouve une autre langue, on trouve une langue complètement intelligible. Il faut dire aussi que, du coup, si on peut parler de sujet, il est complètement différent dans Flipbook. Là, on a affaire au cinéma, au montage du cinéma. Est-ce que vous pouvez un peu parler du projet de Flipbook?
Oui, mais juste avant d'en parler, pour terminer un peu sur Satire, est-ce que ça fait un lien avec Flipbook? Quelque temps, on m'a demandé de réfléchir à un texte qui pourrait résumer Satire. Et j'ai pensé au cinéma de Buster Keaton, c'est-à-dire ce cinéma burlesque du début du XXe siècle. Je ne veux pas m'attarder sur la figure de Keaton, qui est un peu mélancolique, quoi qu'il y ait de la mélancolie dans Satire. Mais vous avez vu le Mécano de la Générale?
Non.
C'est un film où il y a une énorme locomotive, c'est pendant la guerre de sécession en Amérique. Et Buster Keaton joue le chauffeur de ce truc, plutôt le mécanicien, le mec qui fait fonctionner la machine.
D'accord.
Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Enfin, en re-regardant ce film, j'ai pensé à mon livre. C'est être une espèce d'opérateur à l'intérieur du langage. La machinerie, la locomotive serait la langue. Et la faire, avec tout le burlesque de Keaton, monter dans tous les sens, marcher sur le toit de la locomotive, courir dans tous les sens, etc. Opérer de manière complètement délirante cette machinerie depuis l'intérieur. À la fois la faire sursauter, mais en même temps aussi révéler certaines de ses puissances. Ça fait penser à ça. Je parlais de ça parce que le livre dont vous parlez, Flipbook, là, oui, c'est un projet qui est différent, avec une langue différente. Là, l'angle d'attaque, c'est essayer d'exprimer ce que le cinéma, ma passion du cinéma, comme spectateur, fait à ma langue, une fois de plus. C'est-à-dire apprendre à écrire en regardant des films. Apprendre à faire des phrases, apprendre à faire des paragraphes. C'est un livre en prose, avec, on peut dire, un vocabulaire normal. Il n'y a pas de mots qui sautent, il n'y a pas de lettres qui sautent. Il y a une syntaxe un peu particulière, mais enfin bon, c'est un livre a priori normal. Et comment ce langage-là, ces phrases-là, me sont possibles par l'admiration que j'ai de certains plans séquences. Donc le livre consiste dans une quinzaine de textes qui expliquent certains plans séquences de films, de l'histoire du cinéma. Je n'ai pas écrit le livre avec les films sous les yeux. Au contraire, je les ai écrits après. Et donc, il y a sans doute des erreurs factuelles, mais je m'en fous. C'est, il ne s'agit pas d'être clair par rapport à un film. Il s'agit au contraire d'écrire en me remémorant de la passion que j'ai eue pour certains films. Et donc, c'est regarder le cinéma. Et surtout un cinéma de plan-séquence. C'est-à-dire plus du tout Buster Keaton et l'agitation qui était le propre des films de Buster Keaton, mais un cinéma contemporain qui pose de longs plans-séquences, c'est-à-dire des images et qui cadrent les corps, etc. Comment est-ce qu'une image raconte? C'est cette problématique-là qui a suscité l'écriture de ce livre. Et en fait, j'aimerais bien écrire des phrases comme des images de certains films que j'admire racontent des histoires.
Ça, ce sera pour un projet futur?
Non, ça c'est pour Flipbook.
Oui, mais l'envie, cette envie d'écrire...
Ah oui, je vois ce que vous voulez dire.
Comme un film pour créer des images, cette envie-là.
Oui. Tout à fait, vous mettez votre doigt sur le sujet essentiel. C'est-à-dire que mes livres sont un peu comme des machines... comment dire? Des machineries qui m'apprennent à faire des trucs. Il y a un processus d'apprentissage. Ce livre-là, Flipbook, est un livre évidemment autonome. J'espère qu'il tient, je crois qu'il tient esthétiquement en tant que tel, évidemment. Et je l'aime beaucoup comme tel. Et en même temps, il s'y joue dedans des enjeux d'un livre à venir, tout à fait.
Alors, on n'a qu'un pas à sauter pour arriver au DVD. Ceci n'est pas une légende, Hip peut se, qui est sorti chez Incidence dans la collection Le Point sur le i, c'est de la vidéo-poésie. Dans ce DVD que j'ai présenté au tout début de l'émission, on trouve des images, on trouve une réalisation vidéo et on trouve une lecture de plusieurs de vos textes par vous. Parlez-nous un peu de ce DVD. Est-ce qu'il pourrait avoir un lien avec Flipbook ou pas du tout?
Alors, d'abord, un mot sur le titre, et j'imagine que vous avez déjà compris comment est-ce que le titre s'organise. Le titre travaille sur « Ceci n'est pas une pipe » de Magritte. Donc, c'est la relation entre le texte et l'image. Et donc, il s'agissait pour moi dans ce... Ça, c'est un ce DVD, c'est un objet hybride à plusieurs auteurs. On est trois dedans. Il y a moi qui ai écrit les textes et qui fait la voix dans les vidéopoèmes. On les appelle des vidéopoèmes. Il y a une plasticienne qui s'appelle Nabi Avcıoğlu, qui est britannique et turque, qui a fait les films. Et puis, il y a une monteuse qui s'appelle Valérie Kampeners, qui est elle-même une cinéaste, qui a fait le montage vidéo. Et ces trois entités, ces trois personnes, se sont beaucoup parlé. On va dire que moi, j'étais plutôt le trait d'union entre les deux plasticiennes. J'ai dit à la cinéaste, je lui ai parlé, je lui ai dit quel type de film j'aimerais bien qu'elle prenne. Ensuite, elle a fait ce qu'elle a voulu. Et ensuite, j'ai parlé à la monteuse en lui disant, je ne sais pas ce que je lui ai raconté, mais enfin, je lui ai parlé de la façon dont j'avais envie, ce que j'aimais dans le cinéma, ce que j'aimais, etc. Et elle, ensuite, elle a fait ces trucs. Et donc, la chose la plus importante dans ce DVD, c'est que c'est un travail au sens propre, au sens profond, collectif. Ça ne m'appartient pas, ce n'est pas mon propre truc à moi. C'est vraiment un truc à trois. L'idée, c'est évidemment pas que la bande sonore, c'est-à-dire moi lisant les textes, soit simplement une bande sonore du film, et que réciproquement le film tente d'illustrer ce que raconte le texte, parce que ça, je crois que ça serait un gros... Ça ne fonctionnerait pas. Une fois de plus, c'est une question d'influence ou une question de... qu'est-ce que la poésie sonore fait à l'art vidéo et réciproquement? Qu'est-ce que l'art vidéo fait à la poésie? C'est tout le temps une question de contagion, de contamination. Et l'idée, une fois de plus, c'est ça, c'est de dire, cette histoire de syndrome. Moi, j'adore l'art vidéo, j'adore le cinéma, mais je ne suis pas du tout plasticien. Je prends des photos de ma famille, etc., en vacances, mais ça n'a rien à voir avec... Ce que j'aime, c'est regarder, admirer des œuvres et les admirer tellement que je suis complètement refait par elles, qu'elles redéterminent ma façon d'écrire. Et réciproquement, j'ai beaucoup parlé à ces deux plasticiennes parce que j'avais envie de les influencer au bon sens du terme. Donc c'est vraiment un travail très hybride. Et l'idée, c'est qu'il y ait deux régimes. Un régime qui est plastique, en termes de cadrage, en termes de montage, en termes etc., qui est purement vidéographique, et un autre régime qui est littéraire, sonore, qui est la poésie, et que ces deux régimes-là interagissent. Plutôt que de se représenter l'un l'autre, plutôt que de s'illustrer l'un l'autre, ils fassent des trucs aux autres. Ce qui serait parfait, c'est que on comprenne ou on apprécie d'autant plus le texte qu'on a vu l'image, et réciproquement. C'est pour ça que je commence avec cette histoire. Ceci n'est pas une légende, ça veut dire ceci n'est pas une pipe de Magritte, et ceci n'est pas une légende, le texte n'est pas là à légender l'image.
D'accord. Ben merci beaucoup Jérôme Gamme d'avoir été avec nous en direct par téléphone pour nous parler de vos derniers textes, de vos derniers livres et de ce DVD. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.